Excusez-moi si je suis obligé de prendre de partir à 1h moins 5 précise. Voilà, je pense que c'est un sujet qui a été assez largement évoqué par Monsieur Capron et par la table ronde qui vient d'avoir lieu. Je crois que son utilité est évidemment liée à la reconnaissance de la spécificité du rôle, de la place de l'économie sociale et solidaire dans la société, dans l'économie, et puis aussi, disons, à la légitimité du soutien qu'on peut lui apporter, hein, légitimité tant du point de vue de l'État que du point de vue des épargnants ou des autres ou des concurrents. Il faut savoir à qui on a affaire et si vraiment on a affaire à quelque à une spécificité. Alors, je pense que ce besoin de définition a été singulièrement accru par le fait que on ne peut plus considérer qu'économie sociale simplement le fait d'avoir un statut d'association, de mutuelle ou de coopération. L'économie sociale existe, elle n'est pas nécessairement, elle est par essence, elle doit être solidaire, mais tout le monde sait qu'il y a eu des dérives et qu'elle ne l'est pas toujours. Et depuis, dans les 30 dernières années, les déséquilibres d'une économie financiarisée ont créé d'autres besoins et donc des réponses à ces besoins sous des formes diverses. Et encore fallait-il essayer de les définir pour ne pas rester dans un flou qui évidemment est évidemment préjudiciable à qu'est-ce que c'est, en quoi c'est bon, pourquoi faut-il le soutenir? De toute évidence, les questions que tout le monde se pose. Alors, vous avez été très 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 nombreux à travailler sur cette question. Nous avons été très nombreux à travailler sur cette question. On en a donné de nombreux exemples. Tout récemment, d'ailleurs, les États généraux et les cahiers d'espérance ont été complètement traversés par le problème de qu'est-ce que c'est? Comment peut-on se définir? J'hésite de prendre ce mot de label, mais finalement, c'est celui qui a été en définitive retenu dans un rapport qui, en quelque sorte, un petit peu accélérait le mouvement. C'est un rapport parlementaire, celui du député Vercamer, qui est un député de la majorité. Il faut le dire, et qui a réuni tout de même, il faut le reconnaître, à peu près tous les acteurs, enfin en tout cas tous ceux qui se sont manifestés ont pu participer à la rédaction de ce rapport dans les années 89, 2009 et 2010. L'une des premières décisions qui a été prise en compte, enfin une proposition de ce rapport Vercamer et qui a donné lieu à une décision, c'était la revitalisation en quelque sorte du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui existait depuis, qui avait été créé sous le gouvernement Mauroy. Par Michel Rocard, et mais qui ne se réunissait pratiquement plus. Et l'une des premières décisions de ce conseil, quand il s'est réuni, ça a été de dire, voilà, Notre objectif, c'est d'essayer de dégager une loi cadre de l'économie sociale et solidaire. Et s'il y a une loi sur l'économie sociale et solidaire, encore faut-il savoir ce que c'est. Et donc, ils ont demandé, ils ont décidé de créer un groupe label, le label de l'économie sociale et solidaire, et donc ils m'en ont confié la présidence. Voilà, alors ça c'est la petite histoire pour dire maintenant comment les choses se sont passées au cours de cette réunion, quels en sont les résultats, puisque la dernière séance a eu lieu hier matin. Anne-Laure représentait le RTES à cette réunion. Elle pourra certainement me compléter. Je voudrais dire que dans l'ensemble, ce sont des discussions qui ont été très constructives, avec une volonté de consensus, de sortir quelque chose de commun. Je soulignerai dans un instant ce qui me paraît être deux différences et deux voix qui sont de désaccord. Et je pense que dans le rapport que je serai amené à remettre au bureau du Conseil supérieur, qui doit lui-même se réunir en réunion plénière en décembre, en principe pour faire des propositions au gouvernement en vue de cette fameuse loi cadre de l'économie sociale et solidaire, dont c'est une parenthèse, mais il est presque certain qu'elle n'aura pas d'autre effet pendant cette mandature. Je crois tout de même que c'est un outil qu'il faut regarder de près, essayer de travailler. Si elle n'a pas d'effet maintenant, j'espère qu'elle en aura plus tard, sous une forme qu'on peut toujours améliorer. En tout cas, donc, pour revenir à ce problème du label, on a commencé par dire c'est pas il n'y a pas de label, c'est une notion beaucoup trop englobante. Nous les avons laissé tomber le mot de label pour proposer plutôt des référentiels. Le mot a été utilisé souvent ce matin, et ces référentiels se définissent par des critères. On peut, dans ces critères, voir des sous-critères, et en tout cas, il faut essayer d'établir sur chaque critère des indicateurs. Donc, sous forme d'un tableau qui n'est pas encore, que je n'ai pas le droit de vous adresser, mais que Anne-Laure a le droit d'adresser à tout le monde, puisque il a été examiné hier matin. On a fixé quatre grands critères. On a voulu avoir quatre familles de critères. Alors, le premier, c'est celui de la finalité sociale ou sociétale de l'économie sociale et solidaire. Le deuxième, c'est celui de sa gouvernance, une gouvernance démocratique favorisant la participation de toutes les parties prenantes. Le troisième critère, c'est est lié à ça, à une lucrativité limitée. Voire une non-lucrativité. Et sur ce point, inutile de vous dire que c'est le point où il y a eu un certain nombre de désaccords, ce qui implique aussi un encadrement très strict de la rémunération, des rémunérations, je dirais, des dirigeants. C'est le troisième critère. Et le quatrième, c'est celui d'une économie de proximité, c'est-à-dire de son ancrage territorial. Je pense que vous vous retrouvez assez bien dans ces quatre grandes familles de critères. Je voudrais dire que il n'y a vraiment pas eu de discussion autour de l'ancrage territorial et de l'économie de proximité, sinon pour dire que l'idée d'économie de proximité ne veut pas dire pour autant qu'on ne s'intéresse pas au Nord-Sud. Les deux choses ne sont pas du tout incompatibles, mais on a voulu insister sur le fait que l'économie sociale et solidaire répondait à des besoins et correspondait à des ressources qui se situaient sur un territoire, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne doit pas y avoir une coopération à l'intérieur de ce territoire entre les différentes parties prenantes de l'économie sociale et solidaire, mais il peut y avoir et il doit y avoir des coopérations de territoire à territoire et bien sûr aussi entre le nord et le sud. Mais sur ces problèmes de proximité et d'ancrage dans le territoire, je crois qu'il n'y a pas eu de grandes difficultés. Inutile de vous dire que c'est sur la lucrativité que les choses ont été difficiles. Une très grande majorité des participants sont pour un encadrement une mesure très précise de l'encadrement de la lucrativité. La représentante des coopératives, de coopératives FR, groupement donc la fédération des coopératives, n'a pas pu accepter autre chose que, disons, des rémunérations raisonnables et raisonnées, enfin quelque chose qui soit qualitatif. Disons qu'on s'est séparé entre les gens qui veulent mesurer la non-lucrativité et ceux qui la considèrent d'un point de vue simplement qualitatif. Il faut aller vers l'équité, il faut être raisonnable dans les différences de salaire. Il faut bien le dire, s'il y a, à mon avis, une grande majorité de coopératives où la mesure est réelle, tout le monde a présent à l'esprit certaines grandes coopératives financières, voire laitières, où les écarts ne sont pas de 1 à 10 ou de 1 à 20, mais de 1 à 100, sans compter les rémunérations accessoires. Donc c'était, nous allons remettre un rapport en disant que la majorité souhaite un encadrement qui soit à une échelle qui ne soit pas supérieure de 1 à 20, ce qui paraît beaucoup, mais le 1 à 20 comprend toutes les rémunérations et pas simplement le salaire. Et disons que ça permet à un certain nombre de gens de rentrer dedans. Il a été dit d'ailleurs que les choses devaient être examinées secteur par secteur en fonction de la taille et des activités de l'entreprise et que de toute façon, il fallait s'engager à progresser vers un encadrement plus strict. Voilà pour ce problème. Je crois qu'on est arrivé à un bon accord aussi sur la gouvernance démocratique. Pour certains, elle va de soi simplement par le fait qu'il y a le respect du principe une personne, une voix. Mais lorsqu'il n'y a pas respect d'une personne, une voix, ce qui est le cas lorsque l'on n'est pas sous ce statut-là, alors on demande que il y ait un processus de décision auquel participent toutes les parties prenantes et qui soit indépendante de la propriété du capital. Voilà, je pense que sur ces points, il y a là quelque chose qui est vraiment très très spécifique, enfin, et qui en particulier, pour reprendre à la discussion qu'on avait tout à l'heure à la suite de l'exposé de Monsieur Capron, c'est évidemment quelque chose qui est très spécifique à l'économie sociale et solidaire, et pas simplement à la responsabilité sociale de l'entreprise. La majorité a insisté sur l'importance de ces dispositifs, parce que sans ça, qu'est-ce qui distingue et qu'est-ce qui est justement fait la reconnaissance spécifique de l'économie solidaire? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on relève de l'économie sociale et solidaire? Je voudrais dire aussi, enfin, qu'il y a eu sur la finalité. Une discussion, bon, toute évidence, ce sont des activités économiques sous statut de droit privé, assurant la primauté de la personne sur le capital et répondant à des besoins sociaux, sociétaux et ou économiques par une démarche qui respecte les autres critères, à savoir la gouvernance, la lucrativité limitée et l'ancrage territorial. Moi, j'ai pensé qu'il fallait, j'étais pas le seul, mais je ne sais pas si c'est une majorité, en tout cas, je crois que il faut le signaler dans le rapport, qu'il fallait être plus précis sur les besoins. Que des besoins sociaux et sociétaux, c'était tout de même quelque chose d'assez large et vague, et que, notamment, il y a tous les besoins qui répondent, il y a toutes les activités, je veux dire, qui répondent à des besoins non satisfaits par l'État ou par le marché. Dans le système économique actuel. Il y a aussi les besoins les activités qui répondent aux problèmes des personnes, notamment à leurs problèmes d'emploi, mais disons aux problèmes généraux de leur mieux vivre, de leur dignité. Et puis il y a sans doute aussi tous les problèmes qui répondent, toutes les activités qui répondent au déclin de la solidarité dans la société qui est la nôtre. Personnellement, mais je le dirai dans la note au nom d'un certain nombre de ceux qui étaient là, je trouve que c'est mettre les points sur les i que ça me paraît nécessaire. C'est une façon de répondre à la situation actuelle, à la crise actuelle au-delà de la crise actuelle, au déséquilibre très profond qui se sont produits dans une économie qui est dominée par une oligarchie financière. Je crois que l'économie sociale et solidaire ne peut pas passer sous silence le fait qu'elle répond à des besoins qui ont été malmenés précisément par la prédominance du capital financier dans le système économique actuel. Voilà donc ce qui fera l'objet du rapport. Un mot encore pour dire que Moi, je crois que c'est une heureuse initiative, hein, que ça va dans le bon sens. Ça montre que y a un désir de reconnaissance. S'il n'y avait pas la multitude d'actions que nous menons les uns et les autres, je pense que le problème ne se serait même pas posé. Une fois adopté des critères valables, reste le problème de savoir comment on les met en œuvre. Et qui les met en œuvre? Est-ce qu'ils sont mis en œuvre simplement par le gouvernement, par le préfet quand c'est dans une région, ou est-ce qu'ils sont mis en œuvre par un véritable partenariat? Je crois que c'est un problème, je crois, très important, et qui met en œuvre aussi les contreparties, c'est-à-dire les aides, le soutien, les formes du soutien. Nous nous sommes bornés pour le moment à parler des critères, nous n'avons pas été plus loin. Et enfin, pour terminer, et conclure en filigrane dans mon esprit, je crois que on reste tout de même très timide, parce que on reste tout de même sur le rôle réparateur de l'économie sociale et solidaire. Son rôle, en quelque sorte, de supplétif du marché et de l'État, et quelquefois d'instrumentalisé par l'État ou le marché, et que ce sont des critères tout de même qui ne sont pas assez précis sur la dynamique de l'économie sociale et solidaire, sur le fait qu'elle ouvre en quelque sorte la voie vers une autre conception de la richesse et un autre regard sur la démocratie. Il y a toute une série de critères plus précis. On aurait été plus précis, plus sévère, sans doute, si on avait eu aussi présent à l'esprit, non pas la photographie de ce qui existe, mais disons la dynamique qui ouvre la voie vers une économie plurielle, un autre modèle économique. Mais ça, c'est une opinion personnelle que je vous livre à vous, et qui n'est pas celle, disons, de l'ensemble de ce groupe, qui comprend d'ailleurs des membres du gouvernement, enfin pas du gouvernement, mais de l'administration. Merci. Moi, j'ai encore 10 minutes pour répondre à des questions, s'il y en a.
Deux questions. Il faut absolument qu'on parte manger à moins le quart.
Oui, de toute façon, vous.
Deux questions. Une, les deux courtes, si possible. Oui, alors, c'est sur la notion de propriété. Est-ce que vous avez réfléchi à la notion de propriété des organisations d'économie sociale et solidaire? Si jamais ce référentiel, dans le futur, est assorti d'avantages, genre un accès privilégié au marché public, par exemple, ou des choses comme ça, il va y avoir enfin, il y a déjà, hein, des officines qui ont un air social et solidaire, mais qui sont des émanations de grands groupes privés, et qui, dont le capital est complètement lié à ces grands groupes privés, qui sont là simplement pour capter ces avantages et puis se positionner dans les réseaux de consommation responsable. Je pense que la notion de propriété.
Ben, elles sont de propriété privée, puisqu'elles ne sont pas de propriété publique. Ça n'est pas un démembrement de la propriété publique. Donc, je vous réponds en effet de façon précise, elles sont de propriété privée. Mais vous faites allusion, et ça, je ne crois pas qu'on ait pu en c'était pas le sujet. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vois très bien que il peut y avoir de très grandes entreprises. Moi, j'en connais. On en connaît, par exemple, dans l'insertion par l'activité économique, qui, après avoir pendant 10 ou 15 ans ignoré complètement certains services de recyclage, par exemple, se sont précipités dedans à la lumière des directives européennes. Ça, c'est un autre problème qui ne relève pas du label. Hein. Nous, on ne peut pas l'éviter. Mais le problème est de savoir si elles ont une gouvernance démocratique, s'il y a une non-lucrativité comment est réparti les profits. Alors là, je pense que c'est de cette façon-là qu'on doit retrouver qu'on doit se retrouver entre nous.
Arturo, je voulais prévenir sur la question de la finalité sociale parce que ça me paraît essentiel. Et je voudrais que vous nous spécifiez un peu plus sur qu'est-ce qui est contenu dans cette question-là. Par exemple, dans la finalité sociale, je comprends bien, il y a le social classique. Mais est-ce qu'il y a la question environnementale? Est-ce qu'il y a les responsabilités politiques et éducatives que l'économie sociale et solidaire, à mon avis, devrait avoir aussi? Est-ce que c'est une manière large de comprendre la question sociale ou est-ce que c'est simplement cantonné au social classique?
Non, pas du tout.
Réparateur au social
pas du tout. Et je crois que dans les sous-critères, il faut en effet tout à fait indiquer non seulement l'environnemental qui l'est déjà, mais l'éducatif. Enfin, l'éducation populaire, par exemple, est un élément majeur. Mais on pourrait dire aussi des spectacles dans la rue, ou du sanitaire. Enfin, il y a toute une série de. Nous l'avons englobé sous le nom de. Ça reprend un petit peu ce que disait M. Capron, de social et sociétal.
Et est-ce que a été mentionné à un moment ou à un autre dans ce débat la question de la responsabilité politique que l'économie sociale et solidaire doit avoir vis-à-vis de la société, puisqu'on se voit comme une alternative ou comme une autre forme de faire de l'économie, donc une autre forme de faire de la politique aussi?
Je crois vous l'avoir dit en conclusion, c'est en tout cas ma conception de l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est une réponse politique à l'effondrement d'un système de société. Vous ne pouviez pas demander à un groupe qui comprenait des représentants de l'administration de le dire de cette façon-là, mais c'est mon droit de l'indiquer dans le rapport que je vais remettre.